Alors, si vous êtes déjà venu chez nous à la maison, vous aurez remarqué quelque chose de curieux. Peut-être plusieurs choses de curieux, je ne sais pas. Mais je pense à une chose en particulier, ce sont les trois pots de terre, remplis de terre, qui sont suspendus au rebord de la fenêtre de notre cuisine. En fait, j'aimerais juste profiter de cet instant pour préciser qu'il y a un petit peu de confusion, puisque les gens m'ont demandé... Qu'est-ce qui se passe chez vous? Vous êtes des amateurs de terre? Vous collectionnez de la terre que vous mettez dans ces pots? En fait, non, nous ne sommes pas des passionnés de terre. Nous ne partons pas le samedi dans les Pyrénées pour prélever différents échantillons de terre pour les mettre au rebord de la fenêtre. Non, non, ces trois pots remplis de terre sont en fait le jardin de mon épouse. En fait, ce qu'elle aime faire, c'est de planter des herbes de cuisine qui, j'ai observé, meurt systématiquement au bout de quelques semaines. C'est une fenêtre qui est exposée nord, on est à l'intérieur, et bon, elle vient de rentrer dans la salle. Et moi, ça fait longtemps, je suis peut-être un peu cynique, mais ça fait longtemps que j'y crois plus. Mais elle est optimiste, c'est l'une de ses plus grandes qualités. Et on a besoin pour la vie avec moi notamment. L'espoir, la fascination avec la vie, avec la croissance, bah, c'est quelque chose qui nous habite tous. Ça habite ma femme, mais ça nous habite tous. Et même si c'est vrai que 10 plantes par an, c'est quand même moins cher qu'un pavillon en ville avec un jardin, donc je ne m'oppose pas non plus trop à ces trois pots, on est obligé de reconnaître que ce qu'une plante représente, c'est quelque chose qui nous fascine et qui nous attire tous. Que ce soit la croissance botanique de plantes, la croissance économique, on en parle beaucoup, on aimerait qu'il y en ait plus, la croissance des enfants, la croissance de l'Église, la croissance, ça nous fascine. Parce qu'un organisme vivant, c'est un organisme en croissance. Donc qui aime la vie, aime la croissance. Si je vous raconte tout ça, c'est que ce matin, on en vient au clou de ce discours d'adieu de Jésus-Christ à la veille de sa mort dans cet évangile de Jean. Et le clou de ce discours, c'est le texte que Laurent vient de nous lire, et c'est une image de croissance, une belle image de croissance et de croissance collective. Ce sont 17 versets sous vos yeux qui exposent, d'après l'un des experts, je cite, « l'essence du christianisme. » Sous vos yeux, l'essence du christianisme, une image de croissance collective. C'est l'ultime « je suis » de Jésus-Christ. Dans cet évangile, il y en a eu 7. Et puis d'ailleurs, c'est une nouvelle preuve que Jean est bien le plus français des évangiles. Quand est-ce qu'il a commencé? Il a commencé avec le premier miracle de Jésus, chapitre 2, la transformation de l'eau en vin. Conclut Enfin, au milieu de ce discours d'adieu, il y a l'image d'une vigne. Et au milieu, le pain. Chapitre 6. Le vin. Le pain et le vin, c'est le début du festin. Et pour comprendre ce texte qui parle de la vigne, on a besoin juste de voir clair par rapport à sa structure. Parce que quand on lit ce texte comme ça, je ne sais pas quelle impression ça vous a fait, mais ça peut faire une succession de paroles énigmatiques de Jésus qui n'en ont ni queue ni tête. Et moi, mon job là ce matin, ça va être de nous aider à voir qu'il y a une structure, une belle structure, une structure qui nous parle. Et pour commencer, j'aimerais juste vous attirer votre attention sur deux choses. En fait, il y a deux parties dans ce texte que vous avez sur le bulletin. Il y a d'abord, pour les artistes parmi nous, il y a une image. Je sais qu'il y a plusieurs artistes parmi nous. Voilà une image, vous êtes servis. Versets 11 à 17, une explication technique détaillée. Ingénieur. Vous êtes concerné. Tout le monde est servi. Une image, une explication technique qui en fait disent tous les deux la même chose mais sur différents niveaux, différents plans, et les deux servent ensemble à nous exposer l'essence, le cœur du christianisme, de la foi chrétienne. D'abord donc l'image, versets 1 à 8. Et que ce soit d'ailleurs la première fois que vous ouvrez une Bible ce matin ou la énième fois, en fait, cette image, elle est tellement simple, elle est tellement parlante que je vous garantis que d'ici 3 minutes, vous aurez compris vous aurez compris cette image qui est l'essence, le cœur du christianisme. Jésus-Christ, il nous rend service, il nous fait un dessin, comme on dit. Il nous donne une image pour comprendre. Et il n'y a pas besoin, justement, si vous regardez le verset 1-8, il n'y a pas besoin d'être un prix Nobel de littérature pour saisir le sens de cette image. Regardez avec moi ces versets 1 à 8 et cette image. Verset 1, je suis le vrai cep, je suis la vraie vigne, dit Jésus. C'est l'image d'une vigne, cette image de croissance. Et dites-moi, en lisant ce texte, quel est le projet de Dieu pour nous? Quelle est l'essence du christianisme après Jésus-Christ? Quel est le but? Vous voulez remarquer quel est le but? Verset 2, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 3, le sarment, 4, pardon, le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au 7. Verset 5, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Verset 8, ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Verset 16, je vous ai établi afin que vous... Vous avez compris. Si vous êtes venu ici ce matin avec l'idée que la foi chrétienne était quelque chose de triste, quelque chose de dépassé, de statique, de moisi, mes amis, détrompez-vous. Détrompez-vous, c'est une affaire de croissance, c'est une affaire de fruits, de transformation, c'est beau, c'est dynamique, c'est réjouissant, c'est vivant. Voilà le but. Qu'en est-il du moyen? Comment fait-on pour porter du fruit? Quel est le moteur de cette croissance? Comment est-ce que le projet de Dieu se réalise-t-il? Dites-le-moi. Verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. En fait, dans l'original, sur ces 17 versets, le pronom moi ou en moi apparaît plus de 20 fois. Le verbe demeurer est présent dans presque tous les versets. On porte du fruit, dit Jésus, en demeurant en moi, en restant attaché au cep, à Jésus-Christ, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et en fait, si vous avez suivi cette série de rencontres autour de l'évangile de Jean, vous allez peut-être pas reconnaître, mais vous allez voir quand je vous montre en tout cas qu'il y a un petit jeu de mots ici. Revenez avec moi au verset 2 du chapitre 14. De quoi est-ce que Jésus a parlé? Il a parlé du fait qu'il va partir auprès du Père, il parle de la croix, de sa résurrection. Dans quel but? C'est pour vous préparer des demeures, 14.2, dans la maison de mon Père. Des demeures, un endroit merveilleux, beau, pour habiter avec lui. Et puis, verset 23 du chapitre 14, regardez. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et nous établirons domicile ou bien nous ferons notre demeure chez lui. Et puis là, Jésus, il enfonce encore le clou au chapitre 15 avec cette image de la vigne, mais en gardant l'idée de la demeure, en disant la clé c'est moi, c'est de demeurer en moi. Vous avez compris, je vous ai dit, c'était simple. Je vous ai dit 4 minutes, pas 3, je m'excuse. Mais c'est simple. C'est simple. Le christianisme, mes amis, c'est Christ. Le christianisme, c'est Christ. On l'a vu au début du chapitre 14. Jésus-Christ, il est notre destination. Jésus-Christ, il est notre chemin. Jésus-Christ, il est notre garantie. Et ici, avec la vigne, Jésus-Christ, il est le moteur, le moyen de la croissance de cette vigne. Quelle est l'essence du christianisme? Quel est le projet grandiose de Dieu pour nous? Pourquoi est-ce que l'église protestante Saint-Cyprien existe? Pourquoi est-ce que nous avons implanté cette église l'année dernière? Parce que j'étais au chômage? C'est quoi le but de cette rencontre ce matin? C'est pour passer un petit moment sympa? Parce que ça nous aurait pas plu de faire la grâce matinée. Non, nous existons. afin de porter du fruit en demeurant en Jésus-Christ. C'est clair ? Je m'assois ? Voilà, merci de votre attention. Parce qu'il y a un problème. Moi j'ai une question d'eux, je sais pas vous, mais moi j'ai quelques questions encore. L'image est très claire. On porte du fruit, c'est le but, demeurant en Jésus-Christ. Jusque-là, tout va bien, vous comprenez. Qu'est-ce que ça veut dire porter du fruit ? Qu'est-ce que ça veut dire demeurer en Jésus-Christ ? C'est pour ça qu'on a besoin des versets 11 à 17, d'une explication. Et avant de regarder ces versets 11 à 17 et l'explication, j'aimerais juste vous inviter à considérer un instant la déclaration principale de Jésus qui est un peu la poutre de tout ce chapitre. Verset 1, verset 5, verset 8 sous-entendu. Je suis la vraie vigne, je suis le vrai cèpe. L'image de vie, de croissance collective par excellence. Mais pourquoi est-ce qu'il dit je suis la vraie vigne ? Ça veut dire qu'il y a des fausses ? Des vignes fausses qui se baladent par là, qu'il faut éviter ? Ça veut dire qu'il y a des contrefaçons ? D'autres types de plantes ? Pour comprendre cette image, il faut savoir d'abord que la viticulture, c'était le quotidien de ses auditeurs. C'était leur vie de tous les jours. C'était, pour vous et moi, Internet, le téléphone portable, c'est notre quotidien. Pour les auditeurs de Jésus, l'agriculture et la viticulture, c'était l'univers dans lequel ils évoluaient, dans lequel ils baignaient. Et en fait, la vigne n'était pas seulement une image forte, visible physiquement, c'était aussi une image forte dans la conscience collective du peuple juif, du peuple d'Israël. J'essaie de vous expliquer. Quand vous entendez à la radio, à la télé, un homme politique français qui vous parle de l'Hexagone, vous savez de suite qu'il n'est pas en train de parler d'une forme géométrique. Quand il vous parle de l'Hexagone, il est en train de parler de la France, de la République. Et de même, quand un enseignant juif au 1er siècle parlait de la vigne, les auditeurs savaient très bien qu'il ne parlait pas de viticulture, d'œnologie. En fait, si vous lisez l'Ancien Testament, ce sont les trois quarts de la Bible qui précèdent la venue de Jésus-Christ. Si vous lisez le prophète Ésaïe, le prophète Jérémie, le prophète Ézéchiel, le prophète Osée, si vous lisez les psaumes qu'on a lus au début du culte, pour ceux qui étaient éveillés, en fait, la vigne représente à chaque fois le peuple de Dieu, Israël, le peuple juif de l'Antiquité. Puis vous lisez les évangiles synoptiques, Marc, Matthieu et Luc. Ben, vous voyez que Jésus-Christ parle souvent de la vigne en faisant analogie avec la situation de son peuple. En fait, la vigne était un symbole national tellement fort que le roi Hérode, Hérode le Grand, le roi de la province de Judée au 1er siècle, avait fabriqué une immense vigne en or qu'il avait plaquée à la façade du temple à Jérusalem, c'est-à-dire le plaquée contre le lieu central de la vie religieuse et l'identité nationale juive. Donc quand Jésus dit « Je suis la vraie vigne », c'est pas tout à fait Louis XIV, l'État c'est moi, mais c'est pas loin. C'est une déclaration qui est lourde de sens. D'autant plus qu'à chaque fois qu'il est question de la vigne dans l'Ancien Testament, il est question d'un échec lamentable. Et il est question de stérilité, de ronces, de ravages, de mauvais fruits, de pillages, de feu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a aussi une image de feu dans l'image de Jésus ici. Revenez avec moi à la page 395. C'est le passage que Laurent a lu au début. Et ce n'était pas juste pour passer le temps. C'était parce que c'est un passage clé. Page 395. C'est très important pour nous aider à comprendre toute la portée de ce que Jésus-Christ est en train de dire ici même. Psaume 80. Je vais lire quelques versets. À commencer par le verset 9. C'est David qui parle à Dieu. Il dit, tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Il parle de l'Exode, de la fondation du peuple d'Israël. Tu as chassé des nations, tu l'as planté. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Comme dans tous les autres passages, verset 14, le sanglier de la forêt sème la dévastation, les bêtes des champs s'en nourrissent. Dieu de l'univers, reviens donc. Regarde du haut du ciel et constate la situation, intervient pour cette vigne. Ne vois-tu pas l'état de cette vigne que tu as toi-même arrachée, que tu as toi-même plantée? C'est une catastrophe, la vigne, elle est ravagée, elle est saccagée, elle est, verset 17, brûlée par le feu. Et donc verset 16, qu'est-ce qu'il demande? Protège, Dieu, Père, le vigneron, protège ce que ta main droite a planté, le Fils que tu t'aimes toi-même choisi. Ou encore verset 18, que ta main soit sur l'homme qui est à ta droite, sur le Fils de l'homme, titre préféré de Jésus-Christ, qui est à ta droite. Alors verset 19, qu'est-ce qui se passera quand la vigne et le Fils de l'homme fusionneront? Alors nous ne nous éloignerons plus de toi, nous serons rattachés au cerf. Fais-nous revivre et nous ferons appel à ton nom éternel, Dieu de l'univers. Relève-nous, fais briller ton visage et nous serons sauvés. Ça donne un peu plus de relief. Je suis la vigne. C'est en ma personne, dit Jésus-Christ, que le projet grandiose, millénaire de Dieu de se racheter un peuple qui va lui appartenir, qui va rester fidèle à lui, va se réaliser en la personne de Jésus-Christ. Quel message d'espoir! C'est possible. Il peut y avoir de la croissance. Il peut y avoir de la vie grâce à la venue de Jésus-Christ. Mais comment? Ayant grandi en Angleterre, dans la prouesse œnologique et proverbiale. Vous savez quoi, j'avais jamais vu une vigne, en tout cas, j'ai jamais su que c'était une vigne, avant l'âge, je pense, de 17 ou de 18 ans. C'était en plein milieu de l'hiver, j'étais avec des amis, et on descendait, parce qu'on était des pauvres étudiants lycéens, on descendait la nationale, de Paris à Nantes. Donc, on descendait la vallée de la Loire. Et puis, je regardais par la fenêtre. C'était un peu comme maintenant. C'était au mois de février, pleuré, faisait un temps gris, faisait froid. Et je regardais autour de moi. Et je voyais champ après champ, kilomètre après kilomètre, de champs vides, plats, gris. Des champs qui me semblaient dévastés. Ravagé peut-être par le feu, peut-être par la sécheresse, je commençais à me poser, mais c'est triste en France, qu'est-ce qui se passe dans ces champs? Quelle dévastation! Et que sont ces misérables bouts de végétation noire, toute fripée, toute ridée que l'on voit tous les deux mètres? Il y a un feu par là, qu'est-ce qui s'est passé? La sécheresse l'été dernier? Et donc j'ai demandé à mes compagnons de voyage, mais qu'est-ce qui s'est-il passé ici? C'est quoi cette catastrophe sans nom? Quels sont ces misérables bouts de végétation méconnaissables? Et à ma grande surprise, vous l'avez compris, on m'a expliqué, ça, c'est la fierté de la France. Le vignoble de la vallée de la Loire et d'Angers. Mais waouh, les pauvres vignerons, qui a dévasté leur propriété? C'est du vandalisme? Il y a une catastrophe naturelle? Non. Non, ce n'était pas des hooligans, ce n'était pas une catastrophe naturelle. En fait, ces vignes, ces pieds de vignes sont dans cet état-là à cause des vignerons. C'est le vigneron qui les a mis dans cet état-là. Il a fait exprès. Pourquoi? Pour qu'ils portent un beau fruit, afin de pouvoir faire du bon vin, ce qui ressemblait à un carnage, un massacre. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas de la cruauté, c'était le travail indispensable, essentiel du vigneron pour la croissance, pour l'épanouissement de ces belles vignes. Et ça m'aide vraiment à comprendre ce que Jésus-Christ enseigne ici, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, au verset 2 et au verset 6 et 7, regardez. Ça me fait toujours drôle, et ça me décourage un peu quand je suis en train d'essayer d'expliquer la foi chrétienne à quelqu'un. En fait, on entend parfois dire que la foi chrétienne, en gros, voilà, tu donnes ta vie à Jésus et tout baigne, c'est super, c'est cool, tu t'éclates, tu te fais plein d'argent, tu te fais plein d'amis. Et je peux vous dire, moi j'ai plein d'amis, mais je n'ai pas plein d'argent. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Qu'est-ce qu'on fait là déjà? Quand il s'agit de la vie chrétienne, d'après Jésus-Christ, en fait, il y a deux options. Deux options et deux options seulement. Quelle est la première option, verset 1? Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il enlève. Verset sèche, il est brûlé. Première option, ne pas porter de fruit, conséquence, destruction. Ça, bon, c'est pas nous. Hein? Alors, la deuxième option. Ah, quelle est la deuxième option? Tout sarment qui porte du fruit, verset 2, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous avez vu, on porte du fruit. Et la récompense, c'est quoi? De se faire tailler. C'est terrible. En gros, on ne porte pas de fruits et on est cramé. On porte du fruit et on se fait tailler. C'est sympa. J'ai une très mauvaise nouvelle pour vous ce matin. Si vous êtes chrétien, si vous posez des questions par rapport à la foi chrétienne, il n'y a pas d'option numéro 3. Il n'y a pas d'option, tu portes du fruit, tu reçois les félicitations du jury, tu continues à emporter, et puis ça continue comme ça. Non, tu meurs ou tu te fais tailler. C'est aussi simple que ça. Et c'est important de l'entendre de la part de Jésus-Christ. Parce que mes amis, nous vivons dans une culture qui est profondément allergique à la souffrance. Allergique, on ne la supporte pas, on la cache. On l'enferme dans des hôpitaux, on l'enferme dans nos maisons, on n'en parle pas, on la fuit, on la refoule, on la redoute. Et vous allez peut-être même entendre des chrétiens évangéliques qui vont vous prétendre que la vie avec Jésus-Christ est une vie sans souffrance. Si quelqu'un vous dit ça, allez lire ensemble Jean chapitre 15, écoutez les paroles de Jésus-Christ. Et puis demandez à n'importe quel chrétien expérimenté. Quelles sont les périodes de sa vie où il y a eu le plus de croissance, où il y a eu le plus de joie, le plus d'assurance, le plus de fruits? C'est rarement sur le long fleuve tranquille. C'est dans le pétrin, quand le vigneron est en train de tailler. Le pétrin est le terreau de la croissance. Et je tiens à vous le dire ce matin, si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, et si vous avez mal ce matin, n'en doutez pas, le vigneron est à l'œuvre, parce qu'il aime sa vigne, et parce qu'il veut qu'elle porte beaucoup, beaucoup de fruits. C'était une longue parenthèse. Parce qu'on n'a toujours pas la moindre idée de ce que signifie porter du fruit et de ce que signifie demeurer en Christ. Et c'est pour cela qu'il y a l'explication des versets 9 à 17. Ces versets 9 à 17 ont pour vocation d'expliquer cette image de la vigne. Mais dans l'image elle-même, dans les versets 1 à 8, il y a déjà quelques indices. Qu'est-ce que ça veut dire demeurer en Christ? Qu'est-ce que ça veut dire porter du fruit? Déjà, regardez, quel est le moyen par lequel la vigne, elle est taillée? Vous avez vu ça dans le texte, verset 3? Le moyen par lequel Jésus-Christ émonde, nettoie, purifie ses disciples. Verset 3, la parole que je vous ai annoncée. Et regardez au verset 7, quel est le parallèle? entre demeurer en, avec demeurer en Christ, verset 16, si vous demeurez en moi et que mes, indice, mes paroles demeurent en vous. Et parfois, des gens viennent me voir en se plaignant de la terrible stérilité de leur relation avec Dieu. Ils me disent que, parlent du caractère fade de leur rapport avec Dieu. Je me sens loin. Je ne grandis pas. J'ai l'impression que tout ça ne sert à rien. Et la première question que je leur pose, elle est toute simple. Comment se passe ta vie de piété personnelle? Quand était la dernière fois que tu as ouvert, que tu as lu ta Bible, que tu l'as écoutée? Et en général, la réponse, c'est ouais, en fait, c'est vrai qu'en ce moment, ouais, c'est pas vraiment le top. Non, c'est vrai que je suis un peu pris, j'ai pas trop de temps, je suis fatigué. On est tous. Mais verset 4, regardez. Le sarment ne peut pas porter de fruits. Et ne reste pas rattaché au cerf. Mes amis, ce n'est pas en regardant le plafond ou notre nombril ou en visitant différentes églises et congrès et rassemblements chrétiens que l'on grandit, qu'on porte du fruit. Si quand tu te lèves ce matin, ton besoin vital, c'est de répondre à tes SMS, de consulter, de mettre à jour ton compte Facebook, de regarder tes mails, ne sois pas surpris. Si tu as l'impression que tu vis une période de sécheresse, tu seras stérile. Parce que tu n'es pas rattaché au sel. Parce que les paroles de Jésus-Christ ne demeurent pas en toi. J'ai toujours pas trouvé de chrétien, de disciple de Jésus-Christ qui avait une vraie vie dans la parole et qui ne portait pas de fruits. Ça ne veut pas dire que tout est facile. Peut-être qu'ils étaient dans le terreau de la souffrance. Peut-être qu'ils étaient en train d'être taillés, mais ils n'étaient surtout pas stériles. Ils sont en croissance. Et le fruit se voit. Et cet indice, est, par rapport à l'importance de la parole, est confirmé dans les versets 9 à 17. Comment est-ce qu'on fait pour demeurer en Christ d'après le verset 9? Regardez. Verset 9. « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. » Donc, si on veut demeurer en Christ, on doit d'abord faire quoi? Demeurer dans son amour. Mais qu'est-ce que ça veut dire, demeurer dans son amour? Bah, regardez verset 10, vous avez l'explication. Qu'est-ce que ça veut dire, demeurer dans son amour? Verset 10, « Si vous gardez mes commandements, ma parole, vous demeurerez dans mon amour. » Alors, quel est son commandement? Sortez le verset 11, pour l'instant, regardez le verset 12, voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Donc si je résume, demeurer en Christ, c'est demeurer en son amour. Demeurer en son amour, c'est garder ses commandements. Et son commandement, c'est de demeurer dans l'amour. Où est-ce que Jésus est en train de nous dire? L'amour, c'est l'obéissance à sa parole. Et l'obéissance à sa parole, c'est l'amour. D'où d'ailleurs le verset 14. Regardez bien ce verset 14, tellement important, tellement peu compris. Vous êtes mes amis, vous êtes dans mon amour, dit Jésus, si vous faites ce que je vous commande. Peut-être que vous vous demandez ce matin si vous êtes réellement un ami de Jésus-Christ. Vous avez votre réponse au verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. On ne peut pas dire à Dieu. On ne peut pas dire « j'aime Dieu » et lui désobéir. Un croyant non pratiquant est juste un oxymore. Si on n'est pas pratiquant, c'est qu'on n'est pas croyant. Si on n'obéit pas, c'est qu'en fait on n'aime pas. Parce que pour Jésus-Christ, il n'y a pas d'amour sans obéissance. Il n'y a pas non plus d'obéissance sans amour. Et ça, c'est un tremblement de terre. Prenez la mesure de ces versets, parce qu'ils sont un tremblement de terre pour ce qui concerne notre conception de l'amour et de l'obéissance. Parce que, avouons-le, pour nous, l'obéissance et l'amour, c'est le cauchemar et le rêve. c'est la crotte et le foie gras. Quel est le meilleur moyen de braquer un Français? Lui parler d'obéissance. Quel est le meilleur moyen de le faire rêver? Indice, 150 millions de chiffre d'affaires pour Mythic en 2012. Meilleure manière de le faire rêver, c'est lui parler de l'amour. L'amour, pour nous, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est la liberté, c'est l'épanouissement. L'obéissance, c'est la pire chose qui puisse nous arriver. C'est la soumission, c'est la contrainte, c'est la misère, c'est l'esclavage. Sauf que pour Jésus-Christ, les deux concepts sont indissociables. Indissociables pour nous, verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Mais aussi et surtout, et c'est ça la clé que j'aimerais, sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, verset 10. Le caractère indissociable de l'obéissance et de l'amour sont la clé pour nous, mais parce qu'elles sont la clé pour Jésus-Christ. Regardez verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même. De même. Que moi, Jésus-Christ, j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et ça, c'est un énorme thème de tout cet évangile. Comment le Fils demeure-t-il dans l'amour de son Père? En lui obéissant. Et quelle est la forme de son obéissance, chers amis? Revenez au début de ce discours. Chapitre 13, verset 1. Comment est-ce que Jean introduit les dernières 72 heures de son évangile qui part de la croix, de la résurrection de Jésus-Christ, à la fête de la Pâque? Chapitre 13, verset 1. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, croix, résurrection, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Quelle est la forme de l'obéissance de Jésus-Christ à son Père? La forme de l'amour. Parce que, verset 13, autre verset très connu et très mal compris, verset 13, regardez, dit Jésus, chapitre 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mes amis, si nous sommes disciples de Jésus-Christ ce matin, si nous sommes chrétiens, nous le sommes uniquement. Uniquement en vertu de l'expression parfaite de l'amour et de l'obéissance au sein même de la Trinité, exprimée à la croix de Calvaire. Et je tiens à le souligner parce que on peut lire ce passage et penser que le fruit que la vigne produit est le fruit de l'amour et de l'obéissance. Mais il me semble que ce n'est pas ça le message du texte. Le message du texte, c'est que demeurer en Christ, c'est l'amour et l'obéissance. Et c'est quand on demeure en Christ, dans l'amour et dans l'obéissance, qu'on peut commencer à porter du fruit. Vous voyez la différence? Jésus n'est pas en train de dire, lisez tous les jours la Bible, c'est indispensable, il n'y aura pas d'amour, pas d'obéissance sans la parole. Mais la parole ne suffit pas. Jésus n'est pas en train de dire, lisez tous les jours votre Bible et vous demeurez en moi. Non, il est en train de dire, lisez mes paroles, écoutez mes paroles, mettez-les en pratique, dans l'amour, dans l'obéissance. Et là, vous êtes en train de demeurer en moi. En demeurant en Christ, par l'amour et par l'obéissance. Pas par la parole, même si la parole est indispensable. Alors, quel est le fruit que produit cette union parfaite d'amour qui s'exprime en obéissant et d'obéissance qui s'exprime en aimant? Verset 11. Ça, c'est une surprise encore plus grande que l'association de l'amour et de l'obéissance. Qu'est-ce qui se passe quand on obéit à Jésus-Christ? Qui le crut? Je vous dis cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Si si l'idée de l'obéissance à Jésus-Christ nous braque, c'est que nous sommes encore sous le mensonge du serpent. Vous vous souvenez du mensonge du serpent en Genèse chapitre 3? Qu'est-ce qu'il disait à Ève? Le serpent, il disait, obéir à Dieu, c'est la misère. Il sait que si tu manges ce fruit, tu seras son lit, tu seras affranchi. Obéir à Dieu, c'est la misère. Affranchissez-vous. Révoltez-vous un peu. Si vous êtes encore convaincu par ce mensonge, s'il vous plaît, achetez un journal en repartant d'ici. Achetez un journal et lisez-le. La misère, mes amis, ce n'est pas obéir à Dieu. C'est vivre dans un monde où chaque individu, chaque pays est livré à lui-même, où chacun a pour seul maître ses propres idées et ses propres envies. Non, la joie, ce n'est pas de nous approcher de Dieu. C'est de demeurer en Christ. C'est d'appartenir à cette relation d'obéissance et d'amour parfait au sein même de la Trinité, rendu possible, on l'a vu la semaine dernière, par le Saint-Esprit. Et en conséquence, comment est-ce que Jésus s'adresse à ceux qui demeurent en lui par l'amour et par l'obéissance? Verset 15. Ça aussi, c'est énorme, verset 15. « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami. » C'est ça le fruit de l'union. C'est de devenir ami de Dieu, c'est de participer à cette relation intime entre le Père et le Fils, ce qui donne lieu à encore autre chose, verset 15 toujours. À la connaissance de sa volonté, je vous ai appelé ami, verset 15, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris du Père. On a accès à la connaissance, accès à la joie, accès à l'amitié, accès à la connaissance. Et ce n'est pas tout, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fruit? Verset 16, l'assurance. Si vous êtes mes amis, si vous avez connaissance de ma volonté, vous savez, verset 16, que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. L'assurance de notre élection, de notre assurance auprès de Dieu grâce à Christ. Et puis verset 16 toujours, à la fin du verset 16, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce que ça veut dire porter du fruit? Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Exaucement spectaculaire. Vous voyez quel est le fruit? Quel est le fruit quand on demeure en Christ dans l'amour et dans l'obéissance? Verset 11, la joie. Une joie complète. Je ne vous connais pas tous ce matin, mais je sais que vous aspirez à la joie, au bonheur. Jésus-Christ le promet. La joie, verset 11. L'amitié, verset 15. La connaissance de la volonté de Dieu, verset 15. Verset 16, l'assurance de notre statut devant Dieu. Verset 17, exaucement spectaculaire de nos prières. Quel est le fruit? C'est le fruit de devenir partenaire, collaborateur, associé, ami avec Dieu lui-même. Et c'est pour cela que cette image de la vigne est tellement fantastique et tellement riche. Parce que c'est quoi demeurer en Christ? Demeurer dans l'obéissance et dans l'amour. C'est quoi porter du fruit? La joie, l'amitié, la connaissance, l'assurance, l'exaucement. Et donc l'union, le fait de demeurer en Christ nous fait porter du fruit. Et ce fruit, qu'est-ce qu'il fait? Ben, en fait, il approfondit l'union. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe quand on entre dans une amitié, dans une joie plus profonde en Dieu? Ben, cela alimente, cela approfondit notre union, et donc cela mène à quoi? À plus de fruits, ce qui mène à une union toujours plus profonde, ce qui amène à toujours plus de fruits. Vous voyez, c'est une spirale merveilleuse et vertueuse. Plus on est en union avec Christ par l'amour et par l'obéissance grâce à sa parole, plus on porte de fruits, plus on a de la joie, plus on a du plaisir à être avec Dieu, à être dans sa présence et à nous laisser transformer pour lui. Et donc plus il y a de fruits, et donc plus il y a de l'union, et donc plus il y a de fruits. C'est un cercle merveilleux de croissance. Voici mes amis, l'essence du christianisme. Porter du fruit en demeurant en Jésus-Christ. Je vous invite à prier. Il n'y a plus de, pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Notre Père, nous vivons encore sous l'effet du mensonge qui nous fait croire que l'obéissance à toi, c'est la servitude. Qui nous fait croire qu'on n'a besoin de rien ni personne, qu'on peut très bien vivre, très bien s'épanouir tout seul. Et ta parole vient ce matin nous corriger et nous donner de l'espoir. Parce qu'elle nous dit comment nous devons faire pour porter du fruit, pour grandir, pour être en croissance. Et il nous promet que tu es la vraie vigne, la personne en qui le plan grandiose et merveilleux de Dieu de toute éternité se réalise pleinement. Père, pardonne-nous pour notre autonomie, pour notre rébellion, pour le fait d'avoir délaissé ta parole et ta personne. Pour le fait d'avoir cru qu'on pouvait mieux faire en te désobéissant, en aimant d'abord nous-mêmes et en nous privant de ta joie. Et ce que nous demandons ce matin, c'est de nous aider à être des individus, à être une église qui demeure en toi, qui vit de ta parole, qui montre notre attachement à toi par notre amour, par notre obéissance d'abord vis-à-vis de toi et ensuite vis-à-vis des autres. Et où le fruit de la joie, de l'amitié, de l'assurance, de l'exaucement spectaculaire de nos prières soit un fruit évident qui rend gloire à toi-même, notre vigneron.